Dans sa série L'écran radiophonique, Radio Canu vous présente un scénario original de Julien Jean-Pierre, Le Frère. Production, mise en scène, Julien Jean-Pierre. Enregistrement, CVRP. J'ai 35 ans et je ne suis pas marié. Je suis vendeur dans une petite épicerie, Place Hétéros. J'habite un petit deux pièces, rue Sainte-Catherine, au numéro 15. Cela fait 10 ans que j'y suis. Je mène une vie tranquille et solitaire. Après mon travail, j'aime me perdre seul dans les rues. Je marche sans but durant des heures, quel que soit le temps. Mais j'aime mieux sortir la nuit. Je trouve que les villes sont faites pour la nuit. Le jour, la clarté, la lumière enlèvent toutes les le charme à la ville. Le dimanche et les jours de congé, je ne travaille pas. Je reste la journée calfeutrée chez moi pour lire. Je m'assois confortablement dans un fauteuil devant la fenêtre. J'aime lire et j'aime les livres. J'aime les livres, pas le livre précieux, lourd et encombrant. J'aime les livres genre format de poche, petit, léger, à la couverture souple, qui ne risque rien, que je peux mener comme je veux. Mais attention, je ne lis ni longue voix, ni ne comme les pages. Pour garder mes pages, je me sers de n'importe quel morceau de papier. J'aime l'odeur du papier, cela me calme et l'enivre. Je n'aime pas les pages blanches et épaisses. Elles font mal aux yeux. J'aime les feuilles de livre un peu légères et minces. J'aime lorsque le livre commence à vieillir. Pas salir, mais vieillir. Mais je l'achète neuf. C'est moi qui dois le faire vieillir. Je laisse mes pages sans signe ni écrit. Avant de commencer à lire, je regarde la couverture, endroit et envers. Car sur l'envers, il peut y avoir quelque chose d'écrit. Le résumé du livre, la vie de l'auteur. Ensuite, je regarde les dates de sa sortie de presse et de sa création. Je regarde le nombre de pages que j'ai à lire. Pas pour savoir le temps que je vais mettre pour le lire, mais pour savoir si c'est un gros livre, un roman ou une nouvelle. Car si c'est une nouvelle, il vaut mieux que je la lise en une seule fois. Ensuite, je me mets à feuilleter le livre au hasard pour en lire des passages. Et s'il est imagé, je cherche une image. Qu'il soit imagé, tant mieux. Surtout si ce sont des images qui sont faites après de vraies gravures. Après, je commence à lire. J'essaie de m'enfoncer dans le sujet et l'ambiance du livre. Ne plus rien voir, ne plus rien entendre. Entrer dans le livre. Si au bout de quelques pages je suis changé, je retourne à la première page pour pouvoir mieux entrer dans l'ambiance du sujet. Il m'arrive en lisant de prendre des notes sur un morceau de papier. Mais je le fais que très rarement, car j'ai peur de perdre ce que je lis. Alors, je me contente de marquer la page où le passage se trouve pour le copier après ma lecture. Lorsque j'ai fini de lire un livre qui m'a plu, Je me sens tout triste, comme si je revenais d'un long voyage, ou comme si j'avais perdu un ami. Je veux retrouver les joies que j'ai eues. Alors je relis quelques passages du livre. Avant de le refermer, pour être sûr de retrouver les joies que le livre m'a procurées, j'attends un an avant de le relire. Comme cela, j'ai oublié certains passages et j'ai l'impression de lire un nouveau livre. Pour qu'un roman me plaise, il faut que l'un ou les personnages principaux me plaisent, et que le décor, l'ambiance se soit propre à moi. L'époque n'a pas d'importance, mais une époque ancienne permet de s'évader plus facilement de mon monde. Et c'est plus facile pour entrer dans celui du roman. Je n'aime pas que les romans, j'aime tout ce qui concerne la science, les connaissances de l'homme, la psychologie, la philosophie. J'aime les livres de souvenirs aussi. Mais qu'à une condition, c'est qu'ils soient comme les romans. Je ne m'occupe pas du nom de l'auteur, mais seulement si le roman me plaît. De préférence, je choisis des auteurs français. C'est plus facile pour me souvenir du nom, mais je lis malgré tout des romans étrangers, surtout anglais et allemands. J'ai toujours aimé lire, même lorsque j'étais enfant. Enfant, on me donnait des livres pour enfants. Quelquefois, ces livres étaient des adaptations pour les enfants. Cela me rendait malade car je voulais lire les textes originaux. Maintenant, c'est la même chose. Je regrette même de ne pas savoir les langues étrangères, car j'aurais grande joie de lire mes romans étrangers dans leur langue originale. Je trouve qu'il est bon de lire et d'aimer lire, car les livres détiennent des trésors inestimables, comme celui de sortir de soi-même. Est la seule chose qui soit capable de me sortir de cette vie. Pour ce qui est de ma vie sentimentale, elle n'est guère réjouissante. Elle a été jusqu'à présent d'échec en échec. Pourtant, je ne demandais pas grand-chose, c'est d'aimer et d'être aimé. Je ne cherchais même pas à vivre avec la personne. J'ai une famille aussi, mais je suis tellement peu famille. Je peux vous dire en quelques mots. Ma mère est morte il y a de cela 5 ans, crise cardiaque. Mon père vit à Bourgoin et j'ai un frère, 3 ans plus jeune que moi, qui vit avec mon père. Je vois très peu mon père et mon frère. Je ne les aime pas vraiment. Et eux, m'aiment-ils? De temps en temps, je me demande de leurs nouvelles, soit par téléphone ou par lettre. Avant, c'était mon père qui répondait. Maintenant, c'est mon frère. Même au téléphone, c'est lui. Paraît-il que mon père y voit guère. Voilà. Ben voilà. Oui, voilà. Vous savez tout sur moi. Vous voyez, c'est très simple. Ah, mon nom. Il faut pas que j'oublie de vous le dire. Je m'appelle François Bourdel. Je suis grand, mince, brun et un visage sans importance. Chaque jour, je me lève à 8 heures, sors de chez moi à 9 heures pour prendre mon travail de vendeur, à midi je rentre pour manger, à 14 heures travail, 19h30 je sors. Vous voyez, je mène une vie tranquille, sans importance, que mon beau petit français moyen. Vendredi 26 et il est 21h. Après avoir mangé, je me prépare pour me coucher. L'on frappe à la porte. Je vais voir. Judas, je reconnais mon frère. J'ouvre. Il est tout pâle, les yeux hagards, pas rasés, les vêtements fripés. Je lui dis bonjour. Il ne répond pas. Il regarde dans le vague. Je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je le prends par le bras, le fais rentrer et ferme la porte. Qu'as-tu, Antoine ? Il ne répond toujours pas. Je le prends par le bras, le mène dans le salon et le fais asseoir dans un fauteuil. Je vois qu'il ne peut pas parler, je lui sers un verre de bourbon. Prends le verre d'une main tremblante et éclate en sanglots. Je m'assois en face de lui. Antoine, dis-moi ce qui se passe. Il est arrivé quelque chose à père ? Il ne dit toujours rien. Que veux-tu ? Tu as faim ? Tu veux manger ? Il fait non de la tête. Je vois qu'il est en pleine crise nerveuse. Il n'y a qu'une seule chose à faire, lui donner quelque chose pour le calmer et le coucher. Je vais dans la salle de bain prendre dans la pharmacie 2 comprimés pour qu'il puisse dormir. Je remplis un verre d'eau et lui porte les comprimés et le verre d'eau. Tiens, avale ces 2 comprimés. Ça te fera dormir. Soit tu dors chez moi. Tu vas rester ici, je vais préparer le canapé-lit. Matin, c'est samedi, un des rares samedis où je suis de congé. Avoir mon frère chez moi ne m'enchante guère. Je me lève, il est 8 heures. Avant d'aller dans la cuisine pour prendre mon petit déjeuner, j'entrebâille la porte du salon pour voir s'il dort. Oui, il dort. Je ne suis pas percé qu'il se réveille. Je vais pouvoir prendre mon petit déjeuner tranquille. Heureusement, j'ai tout juste eu le temps d'avaler une tartine que la porte de la cuisine s'ouvre pour laisser passage à Antoine. Il est en slip et maillot de corps blanc, le regard d'une personne qui vient de se réveiller. Je me lève et vais vers lui. Bonjour, alors ça va mieux ? Il ne répond pas, je le prends par le bras. Allez, va. Va dans la salle de bain, prends une douche et puis rase-toi. Après, tu prendras ton petit déjeuner. 10 heures. Antoine a l'air mieux. Il va pouvoir enfin me dire ce qu'il se passe. Nous sommes tous les deux assis à la cuisine devant la table, envahis de miettes, de deux bols et d'une cafetière électrique. Tu veux me dire ce que tu as ? Antoine, après quelques secondes d'hésitation.
J'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Combien ?
Je ne sais pas, beaucoup.
Pourquoi ?
Il soupire.
Je dois quitter la France.
Je suis surpris, mais ne le montre pas.
Pourquoi ?
Il se dandine sur sa chaise.
J'ai fait des bêtises, des dettes. C'est à cause de Regina.
Qui est cette Regina ?
Une femme avec qui j'ai vécu. J'ai fait des bêtises pour elle, et je dois quitter la France.
De grosses bêtises ?
Oui.
Je souris. Comme je te connais, tu t'effraies pour un rien.
Non, c'est très sérieux.
Eh bien, raconte-moi ça dès le début.
Il soupire. Voilà, ça a commencé lorsque j'ai connu Regina au mariage de Bruno.
Afin que vous soyez unis dans le Christ, échangez vos consentements.
Isabelle, veux-tu être ma femme ?
Oui, je veux être ta femme.
Je veux être ton mari.
Je te reçois comme époux. Et je me donne à toi.
Je te reçois comme épouse et je me donne à toi.
Ensemble, pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves.
Pour nous aimer fidèlement dans le bonheur ou dans les épreuves.
Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Gloria in excelsis Deo.
S'amusait, dansait, moi je restais dans un coin assis à côté de père. Père lui aussi s'ennuyait, il voulait s'en aller, mais il n'osait pas. Une femme, grande, brune, dans les 30 ans, s'approcha de nous pour nous offrir des rafraîchissements. Je l'avais à peine remarqué. Un moment après, elle revint et me demanda si je désirais danser. Je lui dis que je ne savais pas. Elle m'entraîna tout de même.
La dame respectait sur toutes les grammes. Voilà la partisseur. Et combien ça dure, ce que ça dure. Ça chante, tourne et puis s'en va.
Hé, hey, un banc pour Jeannot. Je suggère une devise pour la section pêche de notre amicale.
Savoir.
Un hameçon, un bout et un optimiste à l'autre.
Ah.
Nous avons dansé, enfin, j'ai dansé comme j'ai pu. Elle se présenta à moi. Elle s'appelait Regina Rinaldi. Elle était roumaine. Mais depuis 5 ans, elle habitait Lyon. Moi, je l'ai trouvée pas mal. Mais j'étais si timide. Et puis, je n'avais jamais eu de femme. Elle, je crois que je lui avais fait un gros effet. Elle a été attirée par mon côté mâle, mon gabarit, la force de mes muscles, ma barbe noire et mon côté ours. Après la soirée, elle voulut que je la raccompagne. Je le dis à père, qui me dit que ça lui ferait du bien de se dégourdir les jambes en rentrant à pied. Je pris ma voiture pour la ramener chez elle. Je m'étais acheté une Mercedes. Enfin, c'est plutôt père qui me l'avait payée. La voiture fit sensation à Regina. J'habitais dans une zone à Vénissieux, la ZUP des Minguettes, un appartement dans une tour. Elle me fit entrer chez elle. Lorsqu'elle ouvrit la porte, je suis surpris de voir, en pyjama rose, deux enfants, une petite fille et un petit garçon. Ils semblaient l'avoir dans les 6 ans. Elle se pencha vers eux, leur donna un baiser, puis ferma la porte. Allez les enfants, allez vous coucher maintenant. Ils partirent en courant. Je suis divorcée et j'ai 2 enfants. Elle me fit entrer dans la salle à manger. Fais asseoir et me sers un verre de liqueur. Me dit que cela faisait 5 ans qu'elle vivait seule avec ses enfants, qu'elle est caissière au supermarché Casino en bas de chez elle. Moi je lui dis que j'étais chef de chantier, je construisais des villas même à l'étranger. Je suis même allé au Maroc faire une villa pour le roi. Ma voiture lui a fait croire ce que je lui disais. Elle a dû tout de suite penser que j'avais de l'argent et une bonne situation. Moi, j'étais fier qu'elle pense cela de moi. J'étais prêt à tout pour qu'elle le croie. Nous n'avions pas grand-chose à nous dire, et puis j'avais sommeil. Je lui dis que je désirais partir. Vous n'allez pas partir comme ça. Ce serait stupide. Elle me regarda avec des yeux langoureux. Elle me frit encore un verre. Une fois que j'ai bu, elle me caressa la main. C'est ridicule de nous quitter ainsi. Venez. Nous sommes levés. J'étais très intimidé. Qu'allait-il arriver? Je n'avais jamais eu de rapport intime avec une femme. Elle me mena dans sa chambre. Elle avait ouvert l'interrupteur. Puis, elle ferma la porte. Je restais debout bêtement. Elle se déshabilla complètement. C'était la première fois que je voyais pour de vrai une femme nue. Je ne savais comment me mettre. Elle s'allongea sur le lit. « Eh bien, déshabille-toi au lieu de rester comme ça debout. »
C'est ce que je fis en tremblant. J'avais honte de ma nudité. J'avais peur de ne pas être à la hauteur. Une fois nu, je m'approchais de lui. J'avais tellement peur que je ne bandais même pas. De ses mains, elle me plaqua contre elle. Elle plaqua ma tête contre ses seins fermes et doux. Elle me caressa les cheveux. Avec son autre main, elle me caressait mes fesses. Puis, elle me masturba. Elle avait les mains expertes. Je me mis en bandée. Ensuite, elle enfila mon sexe en elle. Elle me guida dans ses mouvements. Je dois avouer que j'étais tout affolé. Rapidement, je me mis à jouir, sans presque rien ressentir. Je n'étais plus vierge.
ça n'avait pas été suffisant. Nous avons fait plusieurs fois dans la nuit. À chaque fois, je le faisais avec plus de détente et de satisfaction. Je suis parti très tôt, sans me servir mon petit déjeuner, car il y avait les enfants. Elle me dit en partant qu'elle désirait me voir la semaine suivante. C'était ma première maîtresse. Et maintenant que je connaissais le plaisir partagé, je ne pouvais plus m'en passer. Nous nous sommes vus plusieurs fois de suite. Je dois avouer que, si j'avais du tempérament, elle en avait encore plus. Elle m'épuisait. Mais par orgueil et bravade, il fallait que je la satisfasse. Durant nos rencontres, elle n'était guère causante. J'avais l'impression qu'il n'y avait que cela qui l'intéressait. Mais je me trompais. Un soir, elle voulut que je vienne chez elle plus tôt. C'était pour que je passe la soirée avec elle et ses enfants. J'allais donc chez elle plus tôt. Nous regardions la télévision ensemble. Nous dînions aussi ensemble. Moi, qui n'ai jamais été attiré par les enfants, et les enfants qui n'ont jamais été attirés par moi, mais ceux-là se sont mis à sympathiser avec moi. Pourquoi, je ne sais pas. Il arrivait souvent qu'ils me demandaient de jouer avec eux. Fois qu'ils étaient couchés, nous couchions elle et moi. Comme elle m'invitait souvent à dîner, j'apportais de temps en temps des fleurs à manger, quelques petits cadeaux pour les petits. Le temps passait ainsi, j'allais une fois par semaine chez elle, puis deux fois, puis trois fois. Père ne disait rien, il voulait que je vive ma vie. Un jour, leur télévision noir et blanc tomba en panne. J'en achetai une en couleur. Je n'avais pas un gros salaire, j'étais ouvrier charpentier, mais j'avais un peu d'économie et mon père m'aidait. Régina me dit, écoute, tu viens plusieurs fois par semaine ici, presque tous les jours. Situation. Mes économies filaient à une rapidité incroyable. Je voyais avec effroi mon argent partir. Avec mon petit salaire, faire vivre 4 personnes et la voiture, cela était impossible, surtout qu'elle était très dépensière, achetait toujours le plus cher. Il ne se passait pas de semaine où elle n'avait pas besoin de vêtements. Je n'osais pas lui dire que je ne pouvais pas subvenir à ses besoins. Nous décidâmes de mettre les enfants en colonie et nous de partir en Italie. Que de frais! Heureusement que j'avais ma prime de vacances. Nous sommes donc partis. Mais je n'ai pas goûté au voyage. Pourtant il faisait beau, le temps était merveilleux. Nous sommes allés voir sa famille, qui nous a reçus les bras ouverts. Moi, je feignais d'être heureux. J'étais inquiet pour l'argent et du point de vue sexuel. Elle m'épuisait. J'en ne recevais aucune joie. J'étais épuisé de jouer la comédie, de jouer à l'homme riche au grand corps, de faire semblant d'être heureux. Ça me pesait d'être jamais seul. Je regrettais le temps où j'étais seul avec mon père. Mais ma timidité m'empêchait de la quitter ou de lui dire la vérité. Elle était heureuse, satisfaite et jouait à la dame. Elle ne se privait de rien. Moi, je ne pouvais pas avaler une bouchée sans que je pense à ce que ça allait me coûter. Les vacances se sont finies. J'étais maigri, vieilli, sans un sou. Elle avait grossi, bronzé, était toujours insouciante. Malheureusement, arrivé en France, j'ai eu un accident de voiture. La voiture morte. Elle voulut de suite que j'achète une autre voiture, la même, une Mercedes. Et je n'avais pas de sous. Je n'osais pas lui dire non. et aller en acheter une avec un chèque sans provision. Un prêt, il n'en était pas du tout question, vu mon salaire. La première voiture, c'était mon père qui me l'avait achetée. Puis, la vie reprit. Je n'avais pas d'argent, mais je dépensais comme avant. Je n'osais pas lui dire mes difficultés. Les chèques sans provision pleuvaient. Nous étions en 75 et il n'y avait pas de contrôle comme maintenant. Je continuais à faire l'homme heureux. Mais j'étais affolé. Je n'avais qu'une seule envie, c'était de fuir. Je ne dormais plus à cause d'elle et à cause de ses besoins biologiques intimes et mes soucis aussi. Ce qui fait que je me levais en retard. J'arrivais à mon travail en retard. Mon patron était déjà là jaloux de ma voiture. Il trouvait ce prétexte pour me renvoyer. Je n'osais toujours rien dire à Régine. Je jouais toujours à l'homme heureux. Le matin, je partais comme si j'allais à mon travail et le soir, je revenais. Passais mes journées, la tête vide, à rouler dans la ville. Je ne me venais même pas à l'idée de chercher une autre place. Un jour, la tête dans le vague, je pris un sens interdit et provoquai un accident. Pas d'assurance, en tort, pas d'argent. Ma voiture et l'autre foutue. Le conducteur, mort ou vivant, je ne savais pas. Je partis affolé en courant. Le numéro de la voiture, la police retrouverait. Mon nom, amende, prison, pas d'argent, pas d'assurance, l'échec sans provision, Régina, tout ça tournait dans la tête. J'en avais assez. Je m'arrêtais de courir, réfléchissais et décidais de tout laisser tomber, aller chez mon père, lui demander de l'argent et quitter la France. J'allais chez mon père, il fut surpris de me voir, la mine défaite, maigri, vieilli, les vêtements fripés et sales. Je ne savais pas comment le lui dire, mais il fallait que je le lui dise. Il me fit asseoir, prépara du café, le liquide chaud me fit du bien. Alors, qu'est-ce qui t'arrive ? J'étais tout tremblant, mais le décor familial, le café, me donna du courage. Père, j'ai besoin d'argent, de beaucoup d'argent. Tu dois partir pour l'étranger. Père était surpris. Tu as trouvé du travail ? Non, j'ai fait des conneries et je dois quitter la France. J'ai besoin de beaucoup d'argent. Mais je n'en ai pas. Cette réponse, qu'il me fit avec douceur et tristesse, me mit en fureur. J'étais à bout. Tous ces mois où j'avais refoulé, mon caractère va se déborder. Comment vous n'avez pas d'argent ? Vous voulez pas aider votre fils ? Qui est en danger de mort ? Je n'ai pas d'argent. Je me levai furieux. Il me faut de l'argent, tu m'entends? J'allais dans la pièce, fouillais les tiroirs pour trouver de l'argent. Il leva le bras pour m'empêcher d'ouvrir un tiroir. J'étais furieux, le secouai par les épaules. « Je veux cet argent, tu m'entends ?» Je le secouai si fort qu'il perdait l'équilibre. Sa tête cogna contre le buffet de la salle à manger. Corps glissa le long du buffet et tomba à terre. Il ne se releva pas, avait le regard fixe. Je me penchai vers lui, il était mort, j'étais comme fou. « Tant pis pour toi !» Laissant le corps et continuai mes recherches. Je ne trouvais rien. Au bout d'un moment, épuisé, je m'assis sur une chaise. Puis, je me rappelais le corps du père. En plus de mes ennuis, j'avais le crime de mon père. Je réfléchis un moment et me dis qu'il fallait que je le cache le corps. Je décidai d'en l'enterrer dans la corve. Remontais de la corve épuisée. Je me couchais et restais quelques semaines caché sans sortir de la maison. Des provisions de conserve. Lorsque toi ou un autre téléphonait, venait, je disais que père était absent ou dormait. Et hier, il y avait une lettre de convocation de police pour mon père. J'ai décidé de quitter la France. C'est pour cela que je suis venu, pour que tu puisses m'aider à partir. Je le regardais, horrifié. Son frère qui a tué mon père et qui veut que je l'aide. Pourquoi penses-tu que je veuille t'aider? Père était mon père et tu l'as tué. Tu m'aideras parce que je suis ton frère et que tu ne voudras pas que je reste toujours auprès de toi. Comment oses-tu me faire chanter? Et qui te dit que j'ai de l'argent? Tu vis seul et sans vice. Je réfléchis un peu, j'allais être son otage. Il valait mieux qu'il parte. Je préviendrai la police après. Je lui donnais le plus d'argent que je puisse. Adieu mes économies et mon voyage en Grèce. Fumier, pauvre père, père qui l'a aidé pour sa voiture et tout. Par ta folie et bêtise, tu t'es mis dans le beau drap et c'est père qui l'a payé de sa vie. Je ne lui dis pas, je me contentais de lui remettre l'argent. Que ça? Oui, et je n'ai rien d'autre. Tu connais un type qui pourrait me faire de faux papiers? Je ne fais pas partie du milieu, moi. Mais que tu vis rue Sainte-Catherine? Non, allez, va-t'en, tu me dégoûtes. Tu dégrades tout ce que tu touches, même ceux qui t'aident. Après avoir tué père, humilie et me fais chanter. Va-t'en. Il plaque la porte et descend les escaliers. Je la rouvre. Je me mets à hurler. Salaud, tu es complètement fou et dangereux. Et j'explose en sanglots. Salaud, salaud. Sa série L'écran radiophonique, Radio Canu vous a présenté un scénario original de Junier Jean-Pierre, Le Frère. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre, enregistrement.